Avec son livre Mythologie, Roland Barthes décryptait au milieu des années 50 certains mythes de la société française de l'époque. À l'occasion de la thématique Ma foi, croyance, religion, identité, toute cette semaine sur les 3-8, nous avons invité des philosophes, artistes, écrivains à nous dire, selon eux, quels sont, en 2008, les mythes de notre société. Aujourd'hui, Guillaume Mont-Saint-Jean, philosophe, nous parle de Google Earth.
Lorsque j'ai parlé à des amis de l'idée de s'interroger sur Google Earth, entendu comme un mythe, beaucoup m'ont dit « mais c'est vraiment inutile, qu'est-ce que c'est que cette histoire, il n'y a pas de quoi s'exciter ». Effectivement, il n'y a pas de quoi s'exciter à propos de Google Earth. Il y a de quoi en revanche réfléchir et s'interroger. Il ne s'agit absolument pas d'être contre ou d'être opposé à Google Earth. Il ne s'agit pas non plus, bien entendu, d'être contre le net d'une façon ou d'une autre, bien que ce soit possible. Il ne s'agit pas non plus d'être anti-américain ou d'être opposé aux multinationales. La question de Google n'est pas à l'ordre du jour. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais ce qui m'intéresse dans Google Earth, c'est le fait que Google Earth est un révélateur de nos sociétés, de notre société. Juste un petit élément à propos de la maison mère de Mountain View en Californie, Google. Au-delà de ses 17 000 salariés, de son chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars, etc., ce qui me paraît intéressant, c'est par exemple le fait d'avoir reçu 1 million de curriculum vitae en 2007. Ça me semble plus pertinent et plus révélateur qu'un chiffre d'affaires. Ça veut bien dire que envoyer un curriculum vitae à Google, c'est participer à une certaine vision du monde. Donc, pas de quoi s'exciter à propos de Google Earth. Il n'est pas question de s'en prendre à quelqu'un ou à quelque chose, ou s'il est question de s'en prendre, c'est peut-être s'en prendre à nous après tout. Alors, Google Earth, de quoi s'agit-il ? Vous connaissez tous, donc on va pas insister. Couverture photographique générale, satellite. On dit qu'il s'agit d'une couverture globale. Globale, bien entendu, référence au globe. Au globe terrestre. Donc il s'agit d'une restitution photographique d'un globe, donc d'un objet en trois dimensions. Alors, Google, donc, je vous passe les détails, mais est une sorte de Google Earth, pardon, est une dérivée, un avatar d'une société qui à l'origine s'appelait Keyhole, le trou de serrure, du nom d'un satellite espion américain. Et c'était un logiciel de reconstitution en trois dimensions. D'un survol global de la planète. Et puis à cela sont venus s'incorporer, s'ajouter toute une série d'éléments. Et aujourd'hui, par exemple, Google Earth propose un nouveau service qui s'appelle Sky, dans lequel vous avez une couverture globale, ou prétendument globale, de l'univers. Donc vous avez 100 millions d'étoiles répertoriées, 200 millions de galaxies, donc une totalité à portée de clic. L'une des clés de la possibilité même de Google Earth, dans la mesure où les photographies aériennes et la couverture photosatellite est assez ancienne, ça n'est pas en soi révolutionnaire, l'une des clés de Google Earth, c'est le fait d'acheter par paquet, d'acheter en fait des photos au poids. Donc ce qui fait que Google Earth est un service mis au service de tout un chacun, est un service gratuit, c'est le fait d'avoir accès, pour nous gratuitement et pour Google Earth, au poids, donc des images de deuxième ou troisième génération, c'est-à-dire un peu anciennes, qui sont achetées à bas prix et qui n'ont plus d'intérêt pour les utilisateurs économiques, pour les militaires. Alors, sur cette base, il y a plusieurs remarques à faire, plusieurs lignes de critiques ou d'interrogations qui, à mon avis, font que Google Earth relève effectivement d'une mythologie moderne. Dans un premier temps, Google Earth, c'est d'abord une concentration d'interrogations, de services à finalité bien souvent commerciale. Donc Google Earth, je l'ai dit, est un dérivé d'une information qui à l'origine est payante. Cette information touche à des domaines très variés, ça peut être pour des questions d'agronomie, d'arrosage, de recherche pétrolière, d'océanographie, de météo, bien entendu des questions de contrôle policier, militaire, de surveillance. Donc les utilisateurs sont multiples et les fonctions de Google Earth à l'origine sont très variées. Une fonction plus récente et qui a beaucoup marqué les esprits, c'est une information en temps réel des effets dévastateurs de phénomènes comme le cyclone Katrina en Nouvelle-Orléans ou le tremblement de terre au Pakistan. Donc à ce moment-là, c'est une fonction un petit peu différente qui est la comparaison de plusieurs situations instantanées. Donc cette possibilité d'une vue satellitaire étalée dans le temps permet de comparer et de mesurer des effets et éventuellement, bien entendu, de prendre des mesures, donc de réagir et de transformer. Bien entendu, mais là, inutile de s'en offusquer, il y a des zones d'ombre dans cette offre commerciale. Autrement dit, il y a des zones dans lesquelles les images sont bloquées, floutées, dégradées, pour des raisons militaires, pour des raisons de sécurité, donc que ce soit la Maison-Blanche, le Pentagone, sont en qualité dégradée. Tout dépend, bien entendu, de la nature du serveur sur lequel vous allez. Ce ne sont pas les mêmes bâtiments qui sont présentés en qualité dégradée si vous allez sur le géoportail de l'IGN ou si vous allez sur des serveurs américains. Mais Google Earth est désormais utilisé pour des besoins beaucoup plus larges. Et n'importe qui peut, sur son blog, recourir au service de Google Earth, par exemple, pour localiser à travers le monde ou à travers le pays les délinquants sexuels. Donc vous avez en fait un instrument efficace, global, rien ne peut échapper à cette quête. On peut localiser aussi bien donc des délinquants sexuels, les montrer du doigt, souligner quel est le numéro de la rue où ils habitent. On peut aussi repérer la maison de vacances de Madonna ou de Berlusconi. On peut en temps réel regarder où se trouve le vol transatlantique sur lequel se trouve notre grand-mère. On peut mesurer l'avancée d'une épidémie de grippe aviaire. Et bien entendu, c'est le fin mot de l'histoire. Dans cette concentration des multiples services, on peut trouver un service commercial. On peut rechercher un restaurant, un hôtel, n'importe quel cordonnier, tout ce que vous voulez. Donc, le paradoxe, c'est que cette globalité du service a une finalité qui est, la plupart du temps, extrêmement locale. C'est une sorte de page jaune géographisée, spatialisée. Mais au fond, jusque-là, rien à dire. Que Google Earth, finalement, nous dise plus « vous êtes ici, voici où vous habitez, où habite votre voisin », finalement, c'est un géoportail, donc un portail qui regroupe une multiplicité de services à travers une spatialité géographique, une visualisation. Ça n'est rien d'autre qu'un grand centre commercial qui peut avoir quelque chose contre les centres commerciaux. Nous avons tous des tas de choses contre les centres commerciaux, mais contre le fait qu'on les impose, qu'on les développe à outrance. Mais l'existence de Google Earth jusque-là ne pose pas de problème énorme. Il est une deuxième ligne, un deuxième registre qui, à mon avis, pose plus de problèmes. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans l'idée d'une conception mythologique de Google Earth. C'est l'idée d'une illusion de neutralité. La quête d'une représentation de la Terre est à peu près vieille comme le monde. On en a des traces très anciennes. Cette quête d'une vision de la Terre, d'une visualisation de ce sur quoi nous nous trouvons, c'est quelque chose qu'on trouve peut-être dès la préhistoire, en tout cas dès l'Antiquité. On en trouve des représentations bien souvent d'ordre religieux. Autrement dit, il s'agit de montrer comment la Terre est un objet qui s'oriente par rapport à une quête, par rapport à un sens, par rapport à du sacré. c'est une représentation d'un espace qui est polarisé, dans lequel, par exemple, dans une cosmologie catholique, religieuse, occidentale, il y a une représentation du paradis. Donc tout s'oriente autour du paradis. Donc l'idée d'une volonté de représentation de la globalité de la Terre est une idée ancienne. Google Earth ne fait que l'actualiser à sa manière. Alors il me semble que dans les différentes étapes qui ont conduit à Google Earth, une étape, si on saute quelques millénaires, une étape importante, c'est 1969, c'est l'alunissage, les hommes vont sur la Lune, et c'est l'icône de cette photo prise par la NASA de la planète bleue. La planète bleue, c'est-à-dire la Terre est une planète bleue dans laquelle les océans ont une part majeure. C'est donc une mise à distance de notre sentiment spontané. Nous, nous sommes terriens sur la Terre, nous avons l'impression de ne pas bouger. Et l'image qui nous est renvoyée, c'est une image au contraire d'une sphère qui flotte, qui n'est supportée par rien, aucun atlas qui ne la tienne sur ses épaules. La Terre flotte et la Terre est mouvante et elle est aquatique. Elle est bleue, donc on est au plus loin de notre impression sensible quotidienne. Et puis, il y a une deuxième étape, après cette première image qui fait choc, qui change, me semble-t-il, les mentalités, l'approche que nous pouvons avoir de la Terre. Cette deuxième étape a lieu en 1989-90. On la connaît mal, alors qu'en fait, nous en avons vu les résultats. Cette deuxième étape, c'est une photographie, c'est un montage, en fait, qui est fait par un artiste américain qui s'appelle Tom Van Sant. Et il y a une jolie petite légende autour de cette représentation de la Terre. Ce Tom Van Sant raconte avoir subi une infection aux yeux. Il était malade et donc il risquait de devenir aveugle. Et il a dû rester dans le noir pendant 2 mois avec force antibiotiques, médicaments. Et donc, ça a été un petit peu l'équivalent du poil de Descartes. Ça a été le moment de méditation. Et dans ce moment de méditation, il a eu une révélation, c'est qu'il devait retracer le portrait de la Terre. Alors, c'est intéressant parce que cette expression de portrait de la Terre, c'est l'expression classique de la cartographie. On veut dresser au XVIe siècle, par exemple, on ne parle pas d'une carte du monde, on parle du portrait de la Terre, une représentation comme portrait d'une personne. Alors, Tom Van Sant, en 89, donc, a cette révélation et se dit « il faut que je dresse le vrai portrait de la vraie Terre ». On n'est pas très loin de la véro-icona, hein, la véronique, la véritable image, le véritable visage du Christ. Le vrai portrait de la Terre, alors il appelle ça « a clear day », un jour sans nuages. C'est le « first cloud-free photograph » de la Terre. L'idée de présenter la Terre sans aucun nuage, aucun voile. L'idée d'une représentation du monde qui dévoilerait quelque chose qui n'est pas visible. Pas seulement parce que nous sommes les pieds sur terre dans notre quartier à Radio Grenouille, mais parce que, quand bien même nous irions très loin, à 36 000 km au-dessus de la Terre, ben finalement, on voit mal. Donc, Tom Van Sant se dit « je vais faire survoir, je vais donner à voir la Terre comme on ne pourra jamais la voir, mais comme on aimerait bien la voir ». Et il réalise cette photo que nous avons tous vue, cette sorte de grand rectangle, donc cette map-monde, hein, le monde en forme de map, ce planisphère, c'est-à-dire une sphère aplatie, plan, la forme planéifiée, c'est un grand rectangle très allongé dans lequel on voit comme un déroulé de la Terre, mais avec une vision parfaite des océans et des continents, sans aucun nuage. Tout est beau, tout est clair. Ça a donné lieu à un reportage qui a eu un succès énorme dans National Geographic. Il y avait plus de 10 pages à l'époque, en 1990, dans National Geographic. Et on considère, je n'ai pas été vérifié, mais on considère que cette image est ce qu'on appelle une best-selling image. Donc c'est vraiment l'une des images qui s'est le mieux vendue au monde depuis sa réalisation en 1990. L'objectif de Tom Vincent, au-delà de la rédemption quasi miraculeuse du fait de réapprendre à voir en nous donnant à voir cette belle planète telle qu'on devrait la voir mais qu'on ne pourra jamais la voir, c'était une idée écologique. Ça consistait à sensibiliser aux dangers de la planète. Alors, comment on fait pour faire une image comme ça? On se met avec la NASA et on construit un montage, un énorme rectangle, donc, de, à l'époque, 35 millions de pixels. En 1989, c'était considérable, c'était colossal. Et en fait, on fait un montage de photos issues de scanning, de scanner. Donc, on donne à voir une photo en disant « c'est le monde ». Et cette photo est un montage de plusieurs milliers de photographies qui elles-mêmes ne sont pas des instantanés, ne sont pas des petites unités, mais chacune de ces photographies est le résultat d'un scannage ou scanning, autrement dit d'un balayage. Donc imaginez, quand on voit cette photo qu'on a déjà vue, qu'au lieu d'avoir une donnée instantanée, vous avez en fait le résultat d'une série de balayages. Imaginez que pour représenter votre salon, vous pensez au fait que vous êtes en train de balayer votre salon et que la visualisation de votre salon, c'est le résultat de cette multiplicité de coups de balai. Comme pour faire un tableau, vous avez une multiplicité de coups de pinceau. Donc, l'apparence d'évidence d'unité instantanée, en fait, c'est le résultat presque d'un clapotis, d'une marée, d'une multiplicité de petits mouvements. Godard disait que le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Ben là, c'est à peu près la vérité 35 millions de fois par instant. C'est une sorte de méga, tétra, giga vérité. Bien entendu, c'est un gigantesque montage, et montage au meilleur sens du terme. C'est-à-dire, c'est une construction qui peut dire des tas de choses. Mais c'est tout sauf la Terre qui s'offre à nous de façon immédiate, évidente. Alors, il me semble que cette vision, ce clear day de Tom Vincent, c'est en fait l'archéologie, en quelque sorte, de Google Earth. C'est ce qui rend possible Google Earth. Et il y a une autre lignée, ou je ne sais pas si c'est un antécédent ou une descendance de Google Earth. C'est un livre, mais c'est l'équivalent livre de cette mythologie de Google Earth, du fait de voir comme si on y était. C'est un livre publié en français, traduit en français, un livre publié en américain par Thomas Friedman, qui est un journaliste au New York Times, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle en toute simplicité « La Terre est plate ». Et c'est donc exactement la même forme mythologique, mais non plus sous une forme visuelle, sous une forme livresque, la même mythologie que dans Google Earth, c'est l'idée selon laquelle, désormais, la Terre est un continuum sans obstacle, et la thèse de Friedman, c'est en 1492, au moment de la Renaissance, il y a une mondialisation des États. On a dû prendre conscience qu'il y avait d'autres réalités à travers le monde. Et puis la révolution industrielle, pour le faire bref, de 1800 à 2000, ça a été la mondialisation des entreprises. Ça a conduit donc aux entreprises multinationales. Et désormais, dit Friedman, nous sommes entrés dans une ère dans laquelle la Terre est définitivement plate, une ère de mondialisation des individus, donc une homogénéisation. Tout se tient, c'est un petit peu le contraire de la thèse de Huntington du choc des civilisations, celle-là, il n'y a pas de choc. Tout est fluide, tout est continu, et tout se tient, tout est simple, la Terre est plate, et nous avons accès à tout de la même façon, et au fond, que nous soyons au fin fond du Togo ou à la friche de la Belle de Mai, ça ne change pas grand-chose. Alors, ce Google Earth, donc, c'est une mythologie qui rejoint celle de Tom Vincent, ou plutôt Tom Vincent est une condition qui conduit à cette lecture de Google Earth, qui est finalement une illusion de transparence et de lisibilité. À tout instant, on peut vous donner à voir l'endroit où vous vous trouvez, l'endroit où se trouvent vos amis, ou l'endroit où vous n'irez jamais. Finalement, cette Terre qui est représentée, c'est une sorte de monde enchanté, c'est un monde à la Walt Disney. Nous sommes dans un formidable conte, avec tout ce que ça a d'enchanteur et d'agréable, qui peut jurer qu'il n'a jamais pris plaisir à un Walt Disney. Walt Disney, c'est formidable. Simplement, le monde n'est peut-être pas tout à fait comme un Walt Disney. Donc il s'agit d'un montage déformant, ce en quoi peut-être qu'il n'y a rien de contestable à cela, sauf si on se donne comme un non-montage et comme une évidence comme le monde tel qu'il est, au lieu de souligner qu'il s'agit d'une représentation construite. Et là encore, on retrouve d'autres connaissances. Google Earth, finalement, est assez proche de ce que peut faire un Yann Arthus-Bertrand. Le monde, la Terre vue du ciel, ça n'est pas un hasard si depuis quelque temps, sur le site de Google Earth, on retrouve une situation, une localisation des photos les plus connues d'Arthus-Bertrand, les stars, hein, les lieux devenus iconiques. Il s'agit bien d'une sorte de gigantesque promenade qui est à la fois ce monde enchanté, mais ce monde qui est aussi un peu un monde de repentance, un monde de pénitence, un monde de culpabilité, un monde dans lequel, ben finalement, attention, attention, nous pouvons salir, il peut y avoir des papiers sales par terre, attention, ayons un peu de remords, c'est-à-dire un monde dans lequel, à la fois, on est enchanté, il y a comme un halo de plaisir, mais aussi un danger, une mise en garde. Alors, finalement, Google Earth, mythologie, oui, Google Earth, mythologie, et par exemple, je vais prendre, me référer à un texte de Roland Barthes, puisqu'on parle des mythologies, c'est quand même une allusion à Roland Barthes. Roland Barthes a écrit un très joli petit texte sur la Tour Eiffel, et sur ce qui se passe quand on est en haut de la Tour Eiffel. Et il souligne trois fonctions au moins, trois éléments qui font que lorsqu'on monte en haut de la Tour Eiffel, on a une approche qui ne nous laisse pas croire qu'on voit le monde tel qu'il est. D'une part, il souligne la fonction imaginaire de cette montée en haut de la Tour Eiffel. Quand on monte en haut de la Tour Eiffel, c'est d'abord des souvenirs, des fantasmes, des rêves d'enfants, d'adultes, de vieillards. Donc, voir le monde d'en haut, c'est d'abord renouer avec l'imaginaire. Google Earth, il n'est pas certain que dans cette volonté de donner le monde tel qu'il est, retrouve cette acceptation de l'imaginaire. Ensuite, monter en haut de la Tour Eiffel, c'est lire d'abord une histoire humaine. Ça n'est pas lire les choses telles qu'elles sont, c'est lire le monde tel qu'il a été forgé par les hommes. Donc finalement, ce n'est pas une lecture de la nature, mais c'est la lecture d'un monde en construction. Or, Google Earth nous montre d'abord la nature, les choses telles qu'elles sont. Et dans ce texte de la montée à Tour Eiffel, Barthes finalement montre que aller en haut de la Tour Eiffel, c'est s'astreindre à déchiffrer le monde. C'est s'astreindre à lire, c'est une aventure de l'esprit, c'est une aventure de l'intelligence. Il s'agit finalement de dépasser la sensation. Alors que, me semble-t-il, Google Earth nous cloue au sol en quelque sorte et nous colle dans une sorte de sensation, d'impression, qui nous fait dire « c'est cela même ». La photo satellite révélerait les choses, dévoilerait, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus rien, circuler, il n'y a rien à voir. Or, il n'est pas dit que la vue aérienne et la vue satellite permettent de voir et permettent de bien voir. Je ferai référence à un exemple qui est un exemple lourd, qui est un exemple qui nous emmène loin de Google Earth et qui est chargé. C'est la trop célèbre maintenant photo satellite d'Auschwitz. On a découvert tout récemment des photos aériennes, pas encore satellites, qui avaient été prises en avril 1944. Puis ensuite, une photo particulière, prise le 23 août 1944 à 11h du matin. Et cette photo montre une fumée qui monte depuis Auschwitz. Or, ces photos, prises en 1944, ces photos n'ont pas été interprétées. On n'a pas vu Auschwitz à l'époque. On n'a pas vu parce qu'on ne cherchait pas. On n'a pas vu parce qu'on n'était pas particulièrement préparé à cela. On n'était pas dans un dispositif intellectuel de recherche, de déchiffrement. Les enjeux de l'époque étaient des enjeux militaires. Et donc, on a redécouvert en 1977 ces photos. Les photos aériennes, les photos satellites, ne parlent pas d'elles-mêmes. Donc, Google Earth ne dit pas une vérité spontanée, n'est pas l'expression d'une vérité toute nue, vérité qu'il faut apprendre à voir. Donc, pourquoi Google Earth est-il à mes yeux une mythologie ? C'est une mythologie parce que Google Earth n'apprend ni à voir ni à penser. Google Earth divertit, Google Earth offre un service commercial de plus, et pourquoi pas ? En soi, ça n'est pas un mal. Ce qui peut être gênant, c'est de dire Google Earth donne le monde comme ce qu'il est, une fois de plus, une fois pour toutes. Et Google Earth, finalement, est une sorte d'horizon religieux. Quelle différence y a-t-il entre cette représentation du monde qu'est Google Earth aujourd'hui et les représentations du monde qui pouvaient être figurées à la Renaissance ou au Moyen-Âge, qui voulaient donner à voir la totalité, on ne disait pas la globalité à l'époque, mais la totalité ou la globalité, si on veut, d'un monde, qui est donné à voir de façon géographique, qui organise le monde, qui permet de se repérer, qui permet de souligner des distances. Nous sommes dans une vision du monde qui est bel et bien d'ordre religieux. En quoi est-ce une mythologie ? Si on reprend par exemple les termes, les quelques caractéristiques que Barthes décline pour faire de quelque chose une mythologie. Donc, le mythe, c'est une parole. Google Earth fait parler, non pas un objet du monde, mais le monde en tant que tel. Le monde vient nous parler, d'un coup de clic, le monde s'exprime tel qu'il est, au lieu d'avoir une existence muette, il vient nous dire le temps qu'il fait à tel endroit, la position d'un avion, l'emplacement où habite le pédophile au coin de la rue. Autre caractéristique, d'après Barthes, le mythe transforme l'histoire en nature. Ben oui, le monde, que ce soit New York, que ce soit Marseille, que ce soit n'importe quelle construction historique, ça devient une donnée factuelle, une espèce de mise à distance. Le mythe, dit Barthes, troisième caractéristique, ne cache rien, il ne fait que déformer. Pas de complot dans tout ça, je ne cherche pas à dénoncer le complot de Google qui voudrait nous dire nous cacher ou quoi que ce soit, pas du tout. Google Earth ne fait que nous donner une représentation mythologique, religieuse à mes yeux, ne cache pas, mais déforme et empêche éventuellement de comprendre. Donc, Google Earth, pourquoi est-ce un mythe ? Parce que Google Earth se donne à voir comme étant la vraie vie, comme étant une façon pour les choses de signifier toute seule, de parler. Non, la photo satellite ne dit pas le monde tel qu'il est. Le clear day, cette journée sans nuages, n'est pas le fin mot de la réalité. Le fin mot de la réalité, c'est peut-être le monde tel que nous le faisons et non pas le monde tel que le clic de Google Earth nous permet de le voir.
C'était Guillaume Mont-Saint-Jean, philosophe, qui nous parlait de Google Earth. Mythologie 2008, c'est dans le cadre de la thématique Ma foi, croyance, religion, identité sur les 3-8. Tous les jours, même heure, même onde, jusqu'au 13 avril 2008.